bienvenue sur l'émission Route 66, l'émission de toutes les musiques blues, roots américaines, avec Jean-Luc et David sur Radio RDL.
Salut à tous et bienvenue dans Route 66. Alors vous vous en souvenez peut-être, il y a de cela quelques semaines, on avait fait une émission qui était entièrement consacrée à une exposition qui a lieu actuellement et jusqu'au mois d'octobre à Paris. Hein, c'est l'expo Rock'n'Roll 1939-1959. C'est une autre exposition qu'on va s'atteler aujourd'hui, mais plus locale celle-ci, puisqu'elle a lieu à Bebelenheim à compter du 16 août et ce jusqu'au 19 août. C'est une exposition qui a été montée par un artiste du coin. Ça nous fait particulièrement plaisir. Quelqu'un qui s'appelle Slim Jill Deluxe. C'est un artiste peintre, un graphiste et un musicien qui, à l'occasion de ses 3 décennies de création et également des 30 ans de la mort d'Elvis Presley, consacre, comme je vous l'ai dit, une exposition que l'on peut qualifier de fantasmagorique au King. Alors elle aura lieu, comme je vous l'ai dit, du 16 au 19 août prochain. C'est un comeback spécial, comme il se doit, qui se déroulera à la salle polyvalente, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, hein. C'est en tout cas la salle des fêtes de Bebelenheim, qui se situe juste en face de la mairie. C'est un bel endroit tout neuf, qui devrait nous offrir en tout cas de belles surprises culturelles dans les temps à venir. Pour commencer cette émission, qui évidemment sera en large partie consacrée au King, on va se passer un morceau du maître. Alors c'est un titre qui avait été enregistré en 1969 à Memphis. À l'époque, il était entouré par toute la crème des musiciens locaux, et notamment Reggie Young à la guitare. Mais c'est une version live que je vous propose de ce titre qui a été le dernier numéro 1 du King. C'est évidemment Suspicious Minds que je vous propose en live, enregistré à Las Vegas le 24 août 1969. C'est probablement l'une des premières versions live qu'il a enregistrée de ce titre, et c'est extrait d'un coffret qui s'appelle Live in Las Vegas, que je vous recommande, qui retrace quelques-unes des plus belles prestations d'Elvis Presley dans cette ville mythique. Allez, c'est parti pour une heure d'émission très très rock'n'roll avec Slim Jill Deluxe et surtout avec monsieur Elvis Presley.
A new song that I just recorded and recently, ladies and gentlemen, it should be out within a week or two. I hope you like it. It's called Suspicious Minds. Get it out.
We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, suspicion in your eyes. Here we go again. Oh, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds.
I can't walk out. a trap. I can't walk out because I love it too much, baby. You know, caught in a trap. I can't walk out because I love it too much, baby. I can't walk because I love you too much, baby. I can't walk out because I love you too much, baby.
Pouvions-nous rêver meilleure mise en bouche que ce Suspicious Minds d'Elvis Presley enregistré à Vegas, s'il vous plaît. Le moment est venu maintenant de consacrer une bonne partie d'émission à cet artiste, Slim Jill Deluxe, qui signe son grand retour et ses 30 ans de carrière, ses 30 ans d'art, on peut dire, à travers cette exposition Aloha From Hell, qui aura lieu à Bebelenheim du 16 au 19 août prochain. J'ai vu quelques-uns des tableaux, hein, c'est vraiment très très beau, c'est un univers très particulier, hein, c'est un peu Elvis qui, une fois arrivé au paradis ou en enfer, hein, comme on le préfère, rencontrerait quelques personnages, non pas sortis de l'imagination fertile de Slim Jill, mais tout simplement de ses goûts culturels, hein, aussi bien musicaux que cinématographiques. Mais ça, il saura vous en parler bien mieux que moi dans les minutes qui vont suivre. Alors juste en guise d'introduction à cette interview, je vais passer un autre morceau du King, enregistré celui-ci le 11 juillet 1955. Eh oui, Scotty Moore à la guitare, Bill Black à la basse. À la batterie, c'était Johnny Bernero, hein, et non pas Digi Fontana, hein, comme on a tendance à le penser. C'est vrai que Digi Fontana n'était pas sur les séances Sun, hein. Il a commencé à accompagner le King que sur les séances RCA à partir de 1955. Le titre est une reprise de Junior Parker, le bluesman, c'est Mystery Train. Petit clin d'œil à Slim Jill qui possède le 45 tours original. Et juste après, vous partirez en ma compagnie à la rencontre de ce bonhomme, de cet artiste qui a un univers si particulier et si spirituel. Vous en rendrez compte par vous-même. Allez, place à la musique, puis place à l'interview.
Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone.
around the bend. Train, train, coming around the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all mine, she's my all mine. Train, train. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again.
Slim Jill Deluxe, un pseudonyme qui peut en dire long. D'où te vient-il?
Slim, ça me vient de Sylvain, au concert des Dolls, qui m'a dit « You are slim like David ». Et j'ai sauté sur le surnom parce que ça me permettait de me débaptiser d'un surnom qu'on m'avait donné, et qui était le nom d'un mort. C'est jamais très rassurant d'avoir le nom d'un mort. Et en fait, voilà. Depuis, Slim Gilles étant mon prénom, on a gardé ça pour qu'on me retrouve quand même. Et Deluxe, c'est la première fois que des amis sont venus ici, m'ont dit, mais toi, tu es un fucking rock'n'roll Deluxe. Et tu retrouves ça dans... C'était les premiers traités de traitement de couleurs dans les B-movies, par exemple, Color by Deluxe, et puis ça colle bien à mon activité. Et j'ai gardé, quoi.
Ton activité qui remonte à 30 ans, 1977-2007, un autre anniversaire. Comment t'es venu cette passion pour l'illustration?
Ben j'ai eu un homme admirable comme prof de dessin à Strasbourg, qui était déjà bien dans le milieu rock'n'roll et tout ça, et qui à la rentrée 77 est revenu, m'a balancé une pile de magazines sur la table. Alors au milieu de tout ça, il y avait la mort d'Elvis, évidemment. Tiens, Elvis, il était autrement que tout en blanc, c'est pas mal. Et puis il y avait ce qui se passait à Londres à ce moment-là, et il m'a expliqué que c'était la même expression du côté sauvage qui avait existé en 54, et qu'il fallait connaître ce Elvis là. Et 30 ans de recherche, 30 ans de dessin au travers, tu vas traduire par image toutes ces émotions là. Et cette année, je fête ces 30 ans là, quoi. Elvis et mes démarrages sur cette voie, quoi. 30 ans.
Chez toi aussi, en tout cas, l'art graphique est indissociable de l'art musical. Quelles sont tes influences?
Écoute, je suis influencé par tout ce qui touche au rock'n'roll de cette époque-là. Et c'est les B-movies, c'est le burlesque. Par les B-movies, surtout, c'est pas d'artifice, pas la peine de rajouter des effets spéciaux, graphiques et compagnie. Non, non, quelque chose de très simple. Comme regarder par un trou de serrure la vie d'un mec profondément étrange, et ça très rapidement, petit budget, pour que ça reste spontané, pas travaillé, léché et mort au bout du compte, quoi. T'as les B-movies et puis t'as des égéries, quoi. Dans le burlesque, t'as Betty Page que j'adore dessiner, et puis il y a Lux et Ivy des Cramps que je me plais à dessiner parce qu'au travers d'eux, j'en dessine d'autres. Et comme dit, c'est forcément lié à la musique, parce que pour moi, un dessin a le même genre de rythme. Je peux pas les dissocier, quoi. Et on a besoin de l'image pour la musique, et réciproquement. Je crois que le cheminement est le même. Pour moi, le cheminement est le même que quand je joue de la musique. La préparation et la restitution à cette même énergie, cette même urgence, quoi. Ce même danger, en plus, tu vois, cette mise en danger. C'est en fait ça.
Quand tu dessines, c'est toujours sur fond sonore ?
Oui, suivant les heures, oui. Suivant les heures, vu que je démarre très tôt. J'aime démarrer au lever du jour, quand justement il n'y a pas de son. Et après, j'accompagne musicalement. J'accompagne musicalement parce que parfois, un extrait dans un morceau va me donner une idée pour illustrer. Et puis j'ai besoin de rester dans une respiration pendant que je dessine, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai des CD, tu vois. C'est les seuls cas où j'utilise des CD, parce que les CD, ça dure plus longtemps, on n'est pas continuellement à manipuler, quoi. Sinon, c'est des vinyles, bien craquants.
Justement, parle-moi un peu de ton environnement. Est-ce que tu as besoin d'être dans un cocon spécial pour créer ?
Ah oui, oui, oui. Déjà, il me fallait un endroit où je puisse m'isoler pour me protéger. Et là, c'est ici, mon royaume, c'est 30 ans de collectionnite, de récupération. Et ça va plus loin que le musée, c'est plus un temple, parce que tout revit ici. Toi, tout ce que j'ai récupéré pendant 30 ans, et j'ai besoin de ce visuel... Bah parce qu'il faut être totalement en immersion, tu vois. Jamais se prendre en flagrant délit de normalité, tu vois. Toujours rester dérangé là-dedans. Donc tu joues sur des images bien claquantes, des trucs que vous, enfin, qu'ils appellent maintenant kitsch ou trash, alors que c'est finalement les choses ont la valeur qu'on leur donne. Et j'ai besoin de ça autour parce que c'est ce qui anime ce que je fais. Quand je pense rock'n'roll, ben un bibelot peut être tout aussi rock'n'roll qu'un disque. Et j'ai besoin de ces bibelots autour. Et puis parfois, c'est des bibelots que tu as récupérés, que tu te dis, si tu les avais pas récupérés, ça se fabrique plus aujourd'hui. Eh ben, ça y est, c'est mort, c'est perdu. Alors que tout ça, ça te sert encore aujourd'hui. Tu vois, en peinture, j'utilise des outils traditionnels. Ils n'ont pas bougé d'un iota depuis 2000 ans. Si on avait détruit le passé, je vois pas comment on bosserait pour le futur, quoi. Donc on a besoin, quoi.
Have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, big baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Now, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, big baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back and maybe I won't play house with you. All in my house, yeah. Now this is one thing, baby, that I want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But so baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it! Yeah! Hey, listen to me, baby. Try to understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And then, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, 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 baby,
come back, baby. I wanna play house with you.
Il y a quelque chose qui est très paradoxal chez toi. Quand on te connaît peu, finalement, c'est assez frappant. Tu es un artiste qu'on peut qualifier d'engagé dans le rock'n'roll, qui a un mode de vie très rock'n'roll, et pourtant qui vit dans un endroit très paisible, dans la campagne, au milieu des vignes. Comment expliques-tu ce contraste ?
Mais c'est nécessaire. Pour moi, il n'y a même pas un contraste. Pour moi, c'est obligé. J'ai dire, tout comme à un concert, par exemple, où je vais faire une méditation juste avant, le côté sauvage, tu l'as dans sa restitution, tu l'as pas dans sa composition. Et pour pouvoir composer, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de me retrouver moi et de retrouver l'instant, le ici et maintenant. Et pour ça, tu as besoin de te retrouver en pleine nature. Tu es obligé de te retrouver isolé. D'abord parce que, pour éviter de te faire vampiriser, ça te protège en fait. C'est une protection. C'était Monet qui disait, et puis je suis pas Monet, mais enfin, qui disait l'isolement favorise le talent. Ensuite, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, un artiste engagé, Coluche, il disait, un artiste engagé, c'est un mec qui gagne du fric. Donc, tu vois, voilà l'explication.
Comment médites-tu ?
Ah, je pars sur des bases tout à fait traditionnelles, bouddhistes. Je fais ma méditation levée du jour. J'ai abandonné les bouddhistes et tous ces illuminés le jour où on a voulu m'imposer des règles. Moi, je veux en fait une méditation qui soit sans règles, où tu laisses venir les choses, où tu lâches ton mental et tu laisses venir les influences. C'est là que tous les esprits viennent et tournent autour, gravitent autour. C'est eux qui m'inspirent en fait. C'est une musique qui est finalement une musique et un art qui sont finalement très c'est très chamanique comme truc, hein. C'est très natif américain, medicine man et autres. C'est pour ça que les rockers ne me comprennent pas en général, quoi. Surtout quand tu leur dis que tu es hippie, rockabilly, surfeur, psychédélique. Bah, tout ça veut dire la même chose, mais pas pour eux. C'est la richesse de mon paradoxe, en fait.
Il y a quelque chose qui est très important chez toi, c'est la spontanéité. Je l'ai tout de suite ressenti, hein. C'est pour ça que j'ai pas du tout préparé cet entretien. Si on l'avait enregistré hier, il aurait été probablement totalement différent. Si on l'avait fait demain, il aurait été probablement très différent. J'ai voulu justement faire transpirer cet aspect spontané de ta personne. Pour toi, quelle est la définition de la spontanéité ?
Écoute, c'est... La spontanéité, le rock'n'roll dans sa spontanéité, c'est un individu dangereux. Ça doit faire des remous, mais tu t'attends pas aux remous. Tu sais pas quand est-ce qu'il va intervenir. C'est un truc qui arrive pas à être maîtrisé. Et pourtant, qui est déjà bien en place. Tu as les outils en main, et d'un coup ça lâche. D'un coup ça part, et toi tu arrives à le maîtriser, justement, ce côté spontané. En fait, c'est ça, ouais. C'est y a rien de léché de travailler pendant des lustres. C'est une expression d'un trait d'encre sur lequel tu reviens pas et que tu n'as pas envisagé, anticipé, etc. Il y a pas ça. Il y a une préparation et dès lors que cette préparation est là, tes encres sont prêtes, tout ton matériel est prêt. Là, tu lâches. Tu lâches ton mental, tu vas suivant ton instinct. Ça doit rester très intuitif, très instinctif ce que tu fais. Ça doit pas être réfléchi. Je dirais, non, ça doit pas être réfléchi.
C'est une façon d'être rock'n'roll aussi. Pour toi, qu'est-ce être rock'n'roll ?
Écoute, le rock'n'roll déjà, oui, contrairement, ça va être tordu ça pour une émission musicale. C'est que le rock'n'roll, pour moi, c'est aller très peu de musique et beaucoup d'un art de vivre qui est bâti justement sur le besoin de faire les expériences, d'aller jusqu'au bout des trucs. Mais attention, le bout, c'est toi qui t'établis ta propre limite. Jusque trop loin peut-on aller ? C'est toi qui choisis. Et c'est un état de vie, c'est un art de vivre de tous les jours. J'ai dit, toute ton action est rock'n'roll, toute ton action se fait en conscience et sans cliché, surtout sans cliché, quoi.
Qui est rock'n'roll pour toi, actuellement et même dans le passé? Qui était rock'n'roll sans forcément être musicien? Est-ce que tu as comme ça des modèles du genre?
Écoute, tous ceux qui sont allés jusqu'à leurs extrêmes, qui avaient un truc et qui s'en tenaient une bonne fois pour toutes, quelles qu'en soient les conséquences, ils allaient au bout de leur truc. Alors c'est sûr que bon, on peut effectivement avoir des visions très, très extrêmes et très discutables. Mais prends un serial killer, par exemple. Pour moi, il est très rock'n'roll parce qu'il va au bout de son truc. Il va au bout de son truc. Alors évidemment, maintenant, c'est devenu cliché parce que toute cette culture-là, on en a fait maintenant des compilations, des trucs bien léchés, bien rangés, etc. Bientôt, tout le monde le saura. C'est pour ça, un jour, je vais peut-être décider de me taire. Tout se dira dans le papier, dans le genre. Non, je trouve que tout ça, il faut pouvoir le transmettre. C'est une bonne chose de pouvoir le transmettre. Et tout le monde devrait être rock'n'roll. Je crois que ça nous sauverait la planète. Hein, puisqu'on en est dans des grandes tirades de réchauffement et autres. Soyons rock'n'roll, ça ira beaucoup plus vite.
I once was lost in sin, but Jesus took me in. Well, then a little light from heaven filled my soul. Then he made my heart in love and wrote my name above. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it mine. Let's have a little talk with Jesus. I'll tell him all about my troubles. He will hear our faintest cry and he will answer mine. Well, when you feel a little flare will turn, and you will know a little fire burn, and you will find a little talk with Jesus makes it right. Oh, you may have doubts and fears, your eyes be filled with tears. Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night. Well, he wrote my name above, and he made my heart in love. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Let us have a little talk with my Jesus.
Now he will.
He'll hear our faintest cry.
You know he will
answer by and by.
Now when you
feel a little prayer of wheel a turning,
and you know
just a little fire is a burning. Let us have a little talk with my Jesus, gonna make it right.
Dans tes tableaux, dans tes œuvres qui reflètent beaucoup de la musique, quels sont les autres messages que tu essayes de faire passer, qui sont pas forcément visibles de prime abord?
Bah justement celui-là, hein. Stay sick, reste malade. Reste malade, ne te cantonne pas dans un look ou dans une réaction. Agis comme bon te semble. Agis comme bon te semble, et dans les peintures que je présente là, par exemple, c'est l'expression d'un réveil, d'un lever de soleil, sans jeu de mots, hein, puisqu'il s'agit de sun, mais cette émotion-là. Et ça, j'essaie de le traduire dans tous mes dessins, en règle générale, quoi. Cette liberté, quand il y avait encore de la liberté, quand il n'y avait pas encore de manager, par exemple.
Cette exposition Aloha from Hell est en grande partie consacrée à Elvis Presley. C'est vrai que c'est les 30 ans de sa disparition, pourtant on sent que c'est pas uniquement le but ultime de cette exposition. C'est peut-être une exposition que tu aurais pu faire à un autre moment. Alors pourquoi avoir choisi cette trame d'Elvis Presley?
Écoute, déjà, oui, comme dit, l'événement se présentait, mais l'événement, pourquoi l'événement ? Parce que je dirais que pour moi, c'est d'abord et avant tout un immense hommage aux Cramps, à Lux et à Ivy, donc les fondateurs du groupe Cramps, et qui m'ont fait découvrir ce vrai Elvis. Et au travers de tout l'hommage que je peux lui rendre, c'est un hommage que je leur rends à eux. C'est malheureux avec le recul, mais eux ont une richesse que lui n'a pas, c'est qu'eux sont vivants. Et eux sont peut-être les derniers à transmettre cette énergie qu'il avait. Et comme dit, il va y avoir une succession d'anniversaires, vu que je fête mes 30 ans d'illustration. Les 30 ans d'amitié avec mon collaborateur, qui lui s'est attaché à représenter 77 par la renaissance de ce qui se commençait à se connaître en Angleterre à ce moment-là, et qui avait la même sauvagerie que le mouvement 54 aux États-Unis. C'était le mouvement punk. Et on a voulu mettre ces deux événements en parallèle, parce que pour moi, il y avait la disparition et la renaissance, comme ça arrive continuellement, ce sera toujours un éternel recommencement. C'est pour ça qu'on ne peut pas oublier un événement au profit ou au détriment d'un autre, d'ailleurs. Il y avait ce redémarrage, quoi. D'ailleurs, les salles punk, là, le disaient bien, plus Elvis, plus de Beatles, plus de Rolling Stones en 77. Bon, il y a eu eux, quoi.
Pourquoi t'être attaché plus spécifiquement à l'année 54 en ce qui concerne Elvis ?
Écoute, pour moi, 54, c'était le démarrage du rock'n'roll. Le démarrage du rock'n'roll avec ces sauvages-là qui gravitaient donc autour de chez Sun, de tous ces petits labels. Et de par son démarrage et de par son départ de Sun, la naissance du rock'n'roll en règle générale. 54, je dirais, c'est symbolique, hein. Moi, j'ai pris des dates comme ça, 54, de 54 à 66 pour la vie du rock'n'roll, avec une pointe en 61 pour ce qui a émergé au cinéma. C'est vrai qu'on pourrait compter peut-être un peu avant, peut-être un peu après, parce que si tu prends les véritables racines, alors on va aller chercher dans le blues, et beaucoup antérieurement à ça. On prendra 54, c'était 10 ans avant ma naissance en plus. Donc c'est symbolique aussi, quoi. Je suis beaucoup dans les symboles là aujourd'hui.
Ce lapsus n'est peut-être pas innocent de ta part, 10 ans avant ta mort. Tu crois à la réincarnation ?
Oui, oui. Enfin, j'y croyais dans mon ancienne vie, hein. Maintenant j'y crois plus trop. Bon, si quand je me déplace parfois dans certains endroits, là j'ai franchement conscience que les gens se rendent compte de ma peau verte et de mes antennes. Mais oui, c'est vrai, c'est un lapsus intéressant. Mais on peut pas faire autrement que de croire à la réincarnation. On peut pas nier l'esprit et l'âme. Hein. Je veux dire, quand tu parles de Saoul, par exemple, hein, ben voilà, ça a été la nomination d'une musique, mais il y a un esprit et une âme, hein, pour moi. D'avoir tous ces 45 Sun, par exemple, ou les autres petits labels, hein, c'est vrai qu'on parle toujours de Sun. Quelque part, tu as l'âme de l'artiste qui est dessus, et c'est grâce à ces âmes-là que tu continues à travailler, à avancer dans ton truc.
Pourquoi avoir tenu à faire croiser des personnages aussi divers et variés tels que Frankenstein, etc., à Elvis Presley ? C'est un choix, une décision qui t'est venue comment ?
Écoute, c'est un tout. C'est un tout parce que, en fait, j'ai cherché. Si tu cherches bien, quelle est la première personne à avoir mélangé rock'n'roll et science-fiction ? Et surtout à avoir mis le mot rock'n'roll sur une musique. Ce mec, c'était Pete Meyer, c'était Mad Daddy. Mad Daddy était DJ sur une radio et présentait des émissions de télé, science-fiction. Il était animateur radio, il passait des émissions complètement tarées avec des bruitages de soucoupes volantes, etc. Et par lui est venu tout le B-movies, tu prends les autres animateurs comme Goulardi ou Vampira, qui eux animaient des shows en week-end où étaient mélangés musique et films d'horreur. Pour moi, c'est indissociable les uns des autres. Et en plus, il y a un point commun dans la signification, c'est les monstres. Parce que ce qui se fait maintenant, par exemple, ce que les Cramps font, c'est de, pour certains, des monstres, des jolis monstres. Donc tu peux pas dissocier. En plus, on s'est rendu compte à cette époque-là, quand Goulardi faisait son émission, que le taux de délinquance tombait en flèche. Comme quoi, on avait besoin de cet exutoire. Mais on avait besoin de l'exutoire B-movies, pas comme les films d'épouvante d'aujourd'hui, où on croirait que c'est vrai. Ça, à la limite, on a les infos pour ça, ça nous suffit. Il faut qu'on sente le faux. Si tu prends un mec comme Herschel Gordon Lewis, tu vois que c'est faux. Et c'est ça qui est excellent, parce que c'est ultra réel. Tu vas plus loin que le simple artifice. Tu t'arrêtes pas à un détail, tu vas chercher vraiment profondément. Et ça, on le retrouve dans le rock'n'roll. Ce serait comme écouter un morceau de rock'n'roll en prenant les paroles au pied de la lettre. Là, il nous manquerait quelque chose. Quand tu cherches, tu vois vraiment que c'était tous des monstres. Tous des jolis monstres.
Cette exposition, laisse présager qu'il y aura une suite. C'est quoi ? C'est un point de départ pour toi ?
Alors il y a déjà une suite. Bon, c'est un point de départ parce que je réapparais. En fait, je me suis caché. Maintenant, je fais le retour comme la créature. On va faire un remake de la créature dans le vignoble. Je réapparais. Vous avez vu, il est encore là. Et oui, il n'est pas mort. Il revient et il vient là pour se venger, en fait, pour prendre sa revanche. Et cette expo, le projet étant né d'une vision que j'ai eue pendant un concert, d'une parole de Ivy, que j'ai commencé à mettre en page et que je souhaiterais voir aboutir à un livre qui va être un roman graphique. Mais qui, comme tout, n'a pas de fin. Comme tout ce que je fais n'a pas de fin, dans le sens où c'est forcément pas fermé, ça va donner lieu à d'autres aventures. Moi, je vois en fait ça déjà comme... tout ce que je dessine et tout ce que j'écoute, c'est la métaphore de ma vie. Et ce que je dessine, c'est comme des événements qui arriveraient. Là aussi, je peux pas te dire ce que je vais pouvoir... Il y a tellement de choses qui se bousculent dans mes projets, mais ça va prendre l'aspect comme d'un disque qui sortirait régulièrement. Je suis un groupe et je sors régulièrement un album. Ou comme un comics qui ressort là régulièrement. Je vais refaire un Mad Magazine dans le genre. C'est sans fin.
Elvis, est-il mort ?
Ah non. Non. Il y a beaucoup de gens qui le croient. Là, je suis quand même soumis sous une certaine réserve. Mais il y a des gens qui vont être surpris. C'est-à-dire là, pour l'instant, je suis dans la confidence. Hein, jusqu'au 15, je ne peux rien dire. Mais non, il n'est pas mort, c'est pas possible. C'est pas possible quand tu rencontres des gens comme Lux et Ivy, tu dis que non, il parle à travers eux, hein. Il est toujours là. Et le bon, je te dis, moi il m'est déjà apparu comme ça, en plus le voir apparaître un soir des Dolls, quel meilleur mariage, hein. Ce soir-là, je voyais autant Elvis que Jerry Nolan ou des gens comme ça, hein. C'est tous ces grands-là ne disparaissent pas. Ils ne disparaissent pas, je veux dire, leur esprit va rester. Et on a une putain de mission qui est vraiment de le transmettre. De transmettre tout ce qu'ils nous ont laissé, hein, parce que c'est trop beau.
Justement, peux-tu revenir sur cette fameuse vision que tu as eue le soir d'un concert des New York Dolls ?
Écoute, ça c'était assez fantastique. Déjà, les New York Dolls, je les attendais depuis très longtemps. Hein, depuis que je suis môme, justement ce prof de dessin m'avait fait dessiner une de leurs premières pochettes. Et bon, pour moi c'était l'élément incontournable, c'était des gens à absolument voir. Hein. Pour moi c'est un élément indissociable du rock'n'roll. Et à ce concert à Strasbourg, je regarde Johansen, je les regarde sur scène, et d'un coup j'ai cette vision de Lux et Ivy en train de parler pendant une interview dans un fanzine, et ça s'est passé en 84, et où il parlait d'un scénario informel. Le vrai Elvis. Et là, flash, je me dis, attends, le lendemain même, j'en parlais donc à mon copain, à Ronan, hein, qui collabore avec moi, et de là, c'est parti. Je me suis dit, il faut que je retrace ça, et en plus en leur rendant l'hommage, de leur faire un concert avec lui. Faire ce bœuf informel type Million Dollar Quartet. Et tout s'est enchaîné parce que je voulais retrouver dans une expo. J'avais dans le projet de faire une expo pour Elvis, mais je n'avais pas ce souhait de faire apparaître tous ces éléments bien symboliques de l'époque, tels qu'ils apparaissent dans le scénario, comme cette chicken run que tu retrouves dans un film avec Dean. Et tout s'est construit comme ça. Tout s'est construit comme ça, j'ai mis le copain dans la confidence, je l'ai lancé là-dedans, et depuis j'y travaille d'arrache-pied. Et peu à peu, le projet de pas m'arrêter uniquement aux 30 œuvres pour les 30 ans, je me suis dit, ça va, il faut que ça débouche sur un bouquin. Il faut que ça débouche sur ces fanzines qu'on avait dans le temps. Parce que là aussi, c'est revenir à du document papier, pas uniquement Internet, par exemple. C'est revenir à ce goût de faire de l'œuvre dessinée et parler. On va tenter. On tentera, on va essayer de sortir comme un comics, tu vois, les EC Comics. On a d'ailleurs recopié le logo où nous, on met RG. RKO étant le surnom de mon ami, et G pour Gilles, pour reprendre le EC Comics. Et on reprend la même pagination, ces choses-là, parce que on a été nourri de comics, hein. Même si on a entendu que les derniers, Vampirella, Creepy et cela, ça nous a quand même bien forgé, visuellement, quelque part. Et c'est retrouver un peu ça, quoi. Les gosses en ont besoin. Ça changera des mangas.
Pour terminer cet entretien, Slim Gilles, si tu pouvais voyager dans le temps et dans l'espace et te retrouver à la mi-août 77 à Graceland, que dirais-tu au King ?
Viens avec nous. Reste pas là. Don't eat stuff off the sidewalk. Bouffe pas toutes ces merdes. Viens avec nous. On va t'emmener sur la route. Et je crois qu'on l'aurait enlevé. On l'aurait enlevé pour le soustraire à toutes ces... Tu vois, sur le dernier fanzine de Elvis My Happiness, il y a la dernière photo connue d'Elvis rentrant dans Graceland à l'arrière de sa bagnole. Ah, c'est poignant, hein. C'est poignant. Parce que, effectivement, là, de t'en parler, je le vis comme ça, là, intérieurement. Tu traverses... Come on. Viens, on va recommencer un truc, là. Viens, on va recommencer un truc. Tout n'est pas fini, là. Arrête.
Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.
Oh, I wish I was in Dixie.
Away, away, in Dixieland I'll take my stand to live and die. For Dixieland, it's where I was born. Early Lord, one frosty morn, look away, look away, look away, Dixieland.
Aloha from Hell, c'est donc le nom de cette exposition consacrée au King et à d'autres gens, comme vous avez pu le comprendre. Expo montée par l'artiste Slim Jill Deluxe, et ce sera du 16 au 19 août à Beblenheim. Entrée libre et gratuite, donc ne vous privez pas. J'irai y faire un saut, j'ai vu quelques toiles comme ça, qui était sur le point d'être mise en place. Il y a vraiment de belles, belles choses à voir. Merci à Slim Jill pour cette interview qui vous aura permis de découvrir Elvis sous un autre aspect. Alors Elvis, évidemment, ce sont les 30 ans de sa disparition, hein, ce sera le 16 août prochain. Alors à cette occasion, il y a beaucoup de revues qui sortent, hein, et qui lui sont consacrées, des hors-séries, hein, que ce soit Rock and Folk, Télérama, Les Arocs, ils y vont tous de leur papyrus. Évidemment, d'autres revues éminemment conseillées par l'émission, hein, il s'agit de Elvis My Happiness, la revue du fan club français d'Elvis, hein, dont Slim Jim faisait également référence. Puis dans Jukebox Magazine, évidemment, il y a toujours des choses à glaner sur le King, ou alors dans une autre revue qui s'appelle Le Club des années 60, dont on vous reparlera lors d'une prochaine émission. Route 66, d'ailleurs, sera consacrée la semaine prochaine, encore une fois à Elvis, mais sous un aspect un peu différent, puisqu'on le redécouvrira à travers ses œuvres, pas forcément les plus connues, et surtout à travers les gens qui l'ont influencé, que ce soit dans le domaine du blues, du rhythm and blues, du gospel ou de la musique hillbilly. Allez, je vous rappelle également qu'il y a un certain nombre de spectacles, hein, qui vont avoir lieu en France autour du King. Alors ça commencera par Elvis, The Original Cast, hein, avec ses musiciens des années 70, hein, tels que James Burton, le guitariste, Ronnie Tutt, etc. Ils seront en concert à Paris au Palais des Congrès le 6 octobre, également à Marseille et à Genève. Ce sont les seules dates à proximité. Et puis surtout le spectacle musical, la comédie musicale The King, The Musical, grande fresque historique autour de la vie du King, qui tournera dans toute la France avant de se promener dans le monde entier, avec un passage obligé au Palais des Congrès de Strasbourg le 14 octobre à 17h. Ça aussi, on aura l'occasion de vous en reparler. Allez, on termine comme il se doit l'émission en citant les différents morceaux qu'on s'est passés tout au long de celle-ci. Il y avait en ouverture Suspicious Minds, par la suite Mystery Train, puis Baby Let's Play House, un autre morceau enregistré du temps des studios Sun de Sam Phillips, c'était le 5 février 1955. Après, on s'est passé le Million Dollar Quartet, hein, le groupe improvisé et totalement fou, hein, qui réunissait Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et Johnny Cash. Hein, c'était une session improvisée où il reprenait notamment quelques gospels, dont celui qu'on s'est passé, Just a Little Talk with Jesus. Par la suite, on s'est passé un morceau des Cramps, Aloha from Hell, qui est, tiens, comme c'est bizarre, le nom de l'expo de Slim Jill. Et puis on a terminé avec Elvis Presley, à l'instant, An American Trilogy, extrait de toujours de ce fameux coffret Live in Las Vegas. Et ce titre était enregistré donc en public le 16 février 1972. On va pas se quitter comme ça, évidemment, on va se passer un ultime morceau de Presley pour la route. Un grand titre encore avec une grande orchestration. Ça date toujours des années 70, enregistrement du 12 août 1970 et qui fait partie de l'intégrale du film That's the Way It Is, sur scène You've Lost That Loving Feeling, Elvis Presley. On reparle de lui la semaine prochaine dans Route 66 sur le 103.5 FM. Je vous rappelle également l'adresse de notre site internet sur laroute66.free.fr, où vous retrouverez beaucoup d'infos, des centaines d'interviews, il y a bientôt des mises à jour, des nouvelles interviews qui vont tomber, et puis dans les semaines à venir, un reportage sur Slim Jill et sur tout son univers. Je vous rappelle l'expo Aloha from Hell à Bebelheim du 16 au 19 août. Salut à tous, bonne route, et puis écoutez le King, et puis ayez une pensée pour lui. Ciao.
Allez, bonne route sur la route 66.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it.
There's no tenderness in your eyes when I reach out for you. Girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Get down on my knees for you. If the suit wasn't too tight, if you would only love me like you used to do. We had a love, a love, a love you don't find every day.
Thank you very much.